Prenons nos Bibles une fois de nouveau et regardons dans Hébreux chapitre 7. Je voudrais revenir sur quelques versets ici avant de continuer dans le chapitre 8. Donc mon texte pour ce message, c'est Hébreux chapitre 7, du verset 25 à 28. Et je voudrais vous parler de l'intercession du Seigneur Jésus. Jusque-là, nous sommes en train de voir la supériorité du Seigneur Jésus dans son sacerdoce en comparaison avec les sacerdoces, les sacrificateurs qui le précédaient dans l'Ancien Testament. Et pour cette transition, par exemple dans le verset 24, nous avons lu la dernière fois, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Pour les hommes, pour le sacerdoce de la loi, c'était nécessaire que ce sacerdoce soit transmissible parce que les sacrificateurs mouraient. Et donc, il fallait un autre venir prendre la place de celui qui décédait. Mais en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il est venu, comme le souverain sacrificateur de Dieu, pour accomplir tout ce que la loi exigeait pour la loi et la justice de Dieu, une fois qu'il a fini et accompli cette œuvre, c'était pour toujours. Ce n'est pas nécessaire, donc, que cela passe à un autre souverain sacrificateur. Donc, quand on parle d'être sacrificateur ou souverain sacrificateur, c'est dans le sens d'intercéder en faveur des pécheurs que Dieu a ordonné au salut. En fait, c'est un terme légal, juridique, qui signifie de plaider au nom d'autrui ou bien d'agir à titre de médiateur dans un différend. Nous savons que le différend, c'est que Dieu est saint et l'homme est pécheur. Donc, c'est pour cela que c'est nécessaire d'avoir un intercesseur, avoir quelqu'un comme le Seigneur Jésus-Christ venir et intercéder en faveur de ce peuple que le Père lui a donné. C'est pas pour tous les hommes. Ce n'est pas que Christ est maintenant au ciel en train d'intercéder et plaidoyer en attendant à ce que les hommes prennent leurs décisions. Non, il intercède comme il a prié dans sa prière sacerdotale dans Jean 17 pour ceux que le Père lui a donné. Ça, c'est très important à souligner. Si c'était pour tous les êtres humains, et en fin de compte, tous les êtres humains ne sont pas sauvés, qu'est-ce que cela allait dire au sujet de l'intercession de Christ? On devrait dire qu'il est impuissant comme intercesseur, parce que beaucoup pour qui alors il intercède ne sont pas sauvés, mais tel n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je voudrais voir cela avec vous. Continuons dans le verset 25 d'Hébreux 7, ça commence avec « c'est aussi pour cela ». C'est pourquoi j'ai commencé dans le verset 24, pour avoir le contexte. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, et voilà le mot-clé, pour intercéder en leur faveur. » Combien est nécessaire cette intercession du Seigneur Jésus pour le salut du peuple de Dieu, de ses enfants, de ceux qu'il a élus depuis l'éternité passée et pour qui Christ est venu donner sa vie. C'est écrit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, est plus élevé que les cieux. Notons le contraste entre Christ comme intercesseur et ceux qui l'ont précédé en tant qu'homme. Lorsqu'ils ont fait leur travail, c'était sur la terre seulement. Mais celui, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a accompli tout ce qui était nécessaire pour le salut des pécheurs et il est monté au ciel, où il est assis maintenant à la droite de la majesté divine. Il n'y avait pas de place dans le tabernacle ou le temple de l'Ancien Testament pour les souverains sacrateurs de s'asseoir, parce que le travail n'était jamais fini. Il fallait toujours offrir des sacrifices et toujours œuvrer. Mais lui, une fois qu'il a fini tout ce qui était nécessaire pour la satisfaction de Dieu le Père l'a reçu encore au ciel où maintenant il est assis à la droite de la majesté divine. Cela signifie que l'œuvre est finie, c'est accompli. Plus élevé que les cieux, il a reçu de son Père un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'à ce nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse. Et c'est écrit dans le verset 27 qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, notons le contraste entre l'intercession du Seigneur Jésus et ceux de l'Ancien Testament, n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, voilà une grande différence. Ceux-là devraient offrir pour leurs propres péchés et puis ensuite pour ceux du peuple. Mais Christ étant saint, comme nous avons lu dans le verset 26, innocent, sans tache, il est venu porter le péché sans être taché lui-même par le péché. Le péché ne l'a pas souillé. Il a porté le péché sans toutefois devenir pécheur lui-même. Car ceci, le verset 27 nous dit, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Oh, quel grand sujet que j'ai ici dans ce message d'exalter et annoncer le Seigneur Jésus et son intercession. Donc, le premier point à noter dans ces versets que je viens de lire, surtout dans les versets 23 à 25, c'est que l'intercession du Seigneur Jésus est une intercession pour toujours, à jamais. Nous avons en Christ un sacerdoce immuable. Cela signifie un salut durable. Quelle joie de savoir que le salut que Christ lui-même à accomplir et pour toujours. Et ça ne dépend pas de l'homme de faire quoi que ce soit pour maintenir ce salut. Comme beaucoup de prédicateurs prêchent, ils disent que non, Christ est venu faire son œuvre, mais maintenant c'est à nous de maintenir ce que Christ a débuté, ce qu'il a commencé. Mais tel n'est pas le cas. Il y avait parmi les sacrificateurs qui l'ont précédé un changement constamment, parce qu'une fois que un sacrificateur est mort, c'était nécessaire qu'un autre prenne sa place. Donc le sacerdoce sous la loi de Moïse changeait constamment. Et était dépendant même fois du caractère même du sacrificateur. Il y avait des sacrificateurs comme les fils d'Aaron, qu'à cause de leur faiblesse, en offrant un feu étrange devant Dieu, alors Dieu a dû les enlever, les exécuter, les tuer. Donc, il y avait toujours ce changement-là. Mais en comparaison, Christ est venu sans faute. Et dans sa vie, il a accompli parfaitement tout ce que la loi exigeait. Donc, pour cela, ce sacerdoce ne pouvait jamais lui être enlevé. Il a accompli la loi, non seulement la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi en tout ce qu'il faisait. Et donc, nous avons en lui une intercession pour toujours, un sacerdoce immuable. Et pour cela, une fois mort, c'est vrai, Christ est venu mourir, il n'est pas venu offrir des offrandes, des animaux, mais il s'est donné, comme c'est écrit dans le verset 27 à la fin, en s'offrant lui-même. Mais une fois ressuscité, c'était pour toujours. Et donc, il ne mourra jamais. Et donc, a établi à travers sa vie et sa mort un sacerdoce permanent. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous soucier d'un mauvais sacrificateur comme ceux de l'Ancien Testament et un sacrificateur qui devait alors être remplacé. Non. C'est écrit que son sacerdoce continue pour toujours. C'est ce que nous voyons dans le verset 25, 23, 25 plutôt. Dans le verset 23, si nous remontons de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela, c'est ainsi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Ça signifie de continuer pour toujours. Et voilà pourquoi le sacerdoce de Christ est permanent. Ça, c'est le premier point. Une intercession pour toujours, qui n'a pas besoin d'être changée. Mais deuxièmement, je voudrais souligner qu'il y a en cela une intercession efficace. Il y en avait sous la loi, le sacerdoce, ceux pour qui les sacrificateurs intercédaient, mais en fin de compte, non seulement les sacrificateurs mouraient, mais le peuple même pour qui ils intercédaient ont connu la mort et la condamnation. C'est parce que rien sous la loi ne pouvait rendre les adorateurs parfaits, ne pouvait pas les amener à la perfection. Ça, c'est clair. Et c'est pourquoi il y a eu la nécessité d'un changement de sacerdoce, comme nous avons étudié dans Hébreux 7. Et le verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a eu un changement de loi avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, puisque la loi ne pouvait pas sauver. C'était nécessaire que Christ vienne et que son intercession soit efficace. Et c'est pourquoi nous lisons ici dans le verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il est capable de sauver parfaitement. Le salut n'est pas entre les mains des hommes, mais le salut est dans les mains de ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus. Et lorsque c'est écrit qu'il peut sauver parfaitement, on peut aussi comprendre cela dans le sens il sauve parfaitement, parce que Christ fait tout ce qu'il veut. Et cette nature immuable du sacerdoce de Jésus signifie que le salut qu'il donne est également immuable. Voilà la sécurité éternelle de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas dans mes efforts, ce n'est pas dans mes œuvres, ce n'est pas dans mon zèle, non. Ma sécurité éternelle, la sécurité éternelle du salut est en Jésus-Christ. Et dans son sacerdoce, dans son intercession. Et puisque c'est immuable, donc le salut est aussi immuable, permanent et sûr. La plupart des gens lisent ce verset comme s'il disait que Jésus est capable de sauver, mais hélas, ils imaginent qu'il y a certaines choses que l'homme doit faire alors pour compléter ce salut. Mais non seulement le Seigneur Jésus est capable de sauver, mais il sauve jusqu'au maximum parce qu'il est le souverain sacrificateur pour toujours, donc il sauve pour toujours. Ce n'est pas entre les mains des hommes. Il y avait à l'époque un prédicateur qui a fait un jour un sermon parlant avec passion de la façon dont Dieu l'avait sauvé et il a expliqué du plus bas des gouttières parce qu'il était ivre des gouttières quand Dieu l'a trouvé et l'a délivré. Donc il y en a qui imaginent que oui, il s'applique à ceux-là plus que d'autres, mais il faut savoir que ça prend la même grâce de sauver une prostituée ou bien un soulard que de sauver un homme religieux comme Saul était et qui était propre à ses yeux. Il s'imaginait avoir en lui-même une propre justice, mais il n'y a aucune différence. Tous sont des pécheurs et sont séparés de la gloire de Dieu. Donc quand il s'agit ici de sauver jusqu'à l'extrême, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il s'agit de tous comme des pécheurs dépravés en Adam, ayant chuté en Adam. Ça prend la même grâce, ça prend la même intercession du Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas imaginer que tel est pire que celui-là. Non, nous sommes tous des pécheurs. Et le verbe utilisé ici de sauver, qu'il est capable de sauver parfaitement, dans le verset 25, le mot sauver signifie d'une manière absolue. Il n'y a pas question ici que Christ soit venu pour donner sa vie pour certains pécheurs qui, en fin de compte, ne vont pas bénéficier de ce salut. Non. Lorsque c'est écrit qu'il peut sauver parfaitement, cela signifie que tout le pouvoir est dans sa main et dans son œuvre. Et ça signifie alors que ceux qui sauvent, il les sauve dans le sens le plus complet, plus rien à ajouter. Quand il a crié du haut de la croix, tout est accompli. Il ne restait plus rien à ajouter à son œuvre. Il sauve de tout ce que le pécheur a besoin d'être sauvé. Sauvé du monde, sauvé du diable, sauvé du péché et sauvé même de la loi de Dieu qui condamne. Mais Christ a tout accompli. Donc, nous avons en Jésus-Christ cette intercession, non seulement pour toujours, mais une intercession efficace. La Bible ne connaît pas une intercession de Jésus qui n'accomplit pas ce pourquoi il intercède. Mais troisièmement, je voudrais aussi noter ici que nous avons dans l'intercession du Seigneur Jésus une intercession unique et particulière. Ça ne dit pas qu'il peut sauver parfaitement qui que ce soit, mais notons la particularité de cette intercession. C'est écrit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, mais là, ça ne s'arrête pas là, par lui. Il y en a qui cherchent à s'approcher de Dieu par tous les moyens possibles qu'ils imaginent. C'est comme un jour quelqu'un m'a expliqué que le salut est comme une montagne. Et il y a des gens qui grimpent cette montagne de tous les côtés, de toutes les façons, par tous les moyens possibles. Mais en fin de compte, ceux qui arrivent au bout, ceux-là peuvent être sauvés. Et ça, ce n'est pas le salut selon la Bible. Ici, c'est un salut particulier, unique, et c'est une intercession particulière. Parce que c'est écrit, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, ça c'est pas tout le monde. Nous voyons ici que, quoique Jésus est capable de sauver, ce n'est pas une question de manque de pouvoir, mais ça n'a jamais été le dessein de Dieu de sauver tous les êtres du monde entier. Je sais qu'il y en a qui raisonnent, ils disent non, mais si vous dites que Christ n'est pas venu sauver tous les hommes, vous êtes en train de limiter alors le salut. Non, c'est limité seulement dans son dessein. Ceux qui disent qu'il est venu pour sauver tous les êtres du monde entier, pourtant tous les êtres du monde ne sont pas sauvés, cela limite alors le pouvoir de Dieu de pouvoir sauver, parce qu'ils disent, ah, mais il y en a, quoi qu'ils veulent les sauver, ils n'arrivent pas à les sauver. Ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est limité seulement dans son dessein, dans sa particularité, comme nous voyons décrit ici. C'est pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Cela montre alors clairement que l'intercession de Christ est uniquement, c'est une intercession unique et particulière pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alors la question est de savoir qui peut donc s'approcher de Dieu par lui. Ce n'est pas par notre volonté. Laissé à nous-mêmes, on n'allait jamais s'approcher de cette façon. Mais comme Jean, dans son épître, l'a bien décrit, et ce sont les paroles de Christ lui-même dans Jean chapitre 6 et le verset 44. Il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc lorsque c'est écrit ici dans Hébreux 7 et le verset 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, qui s'approchera de cette manière. C'est uniquement ceux qui sont ainsi attirés par le Père. Nous voyons la divinité ici dans le Père, ce que le Père fait, ce que le Fils fait, ce que le Saint-Esprit fait. C'est le Père qui ordonne à ce que les pécheurs s'approche de lui par Christ. C'est Christ qui est là comme leur intercesseur et c'est l'Esprit qui accomplit la volonté du Père en attirant uniquement ceux pour qui Christ intercède. Et il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Et encore dans le même chapitre 6, c'est le verset 66. 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est pourquoi nous devons comparer les Écritures avec les Écritures. Ce sont les Écritures qui interprètent le sens des Écritures. Donc nous voyons ici une intercession qui est unique et particulière. Et lorsque c'est écrit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il vit toujours. Lorsque Christ intercède, c'est en faveur de ce que le Père lui a donné. Et donc, il vit pour intercéder en leur faveur, étant toujours vivant pour intercéder. Quand cela est écrit, cela ne signifie pas que maintenant, Christ est au ciel et chaque fois qu'un des siens pêche ou chute, que voilà, il doit de nouveau maintenant adresser des prières à son Père pour en quelque sorte apaiser un Père en colère. Il ne faut pas interpréter ça de cette manière, comme si le Père veut nous détruire, mais voilà, maintenant Christ doit continuer à intercéder. Ce n'est pas le sens de ce qui est écrit ici. Le sens, quand c'est écrit, il vit toujours pour intercéder pour eux. Cela nous fortifie de savoir que la simple présence de Jésus auprès du Père est toute notre intercession. Sa présence là, le fait qu'il est là, ayant accompli déjà le salut et ayant déjà rendu cette propitiation, cette satisfaction, que la colère de Dieu est déjà apaisée à cause de l'œuvre de Christ. Donc, il vit toujours. Nous ne sommes pas en train de suivre un martyr qui est mort et qui n'est plus vivant, non. Il vit aujourd'hui, toujours vivant, pour intercéder en faveur de ceux pour qui il est mort. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, et voilà un passage qui, pour moi, me réconforte beaucoup, parce que parfois, on peut avoir des doutes en nous-mêmes pour savoir, mais est-ce que réellement Dieu est apaisé, sa colère est apaisée. Est-ce que vraiment Dieu est satisfait? Ici dans Romains chapitre 8, c'est écrit dans le verset 32 pour commencer. Ou bien, commençons dans le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment est-ce que Dieu peut être pour un pécheur? C'est dans la satisfaction, c'est dans l'intercession du Seigneur Jésus à leur égard. C'est écrit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses en ce qui concerne le salut, la grâce, le pardon, la glorification, la sanctification, la justification. La liste continue. Qui, verset 33, accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le mot justifie signifie déclarer juste. Et cela s'est accompli à la croix. Ce n'est pas au moment où nous croyons que nous sommes justifiés, mais Dieu donne son esprit pour que nous croyons que lorsque Christ est mort, nous étions justifiés. Et verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, voilà, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La signification là, sa simple présence représente la défense devant le Père pour tous nos péchés, péchés passés, présents et des péchés que nous allons certainement commettre, continuer à commettre parce que nous sommes des pécheurs, mais rien dans cela ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu ni de l'intercession du Seigneur Jésus-Christ à notre égard. Ah, quelle consolation de savoir cela. Donc, une intercession unique et particulière pour ceux pour qui Christ est mort. Et puis, un dernier point que je voudrais revenir dans mon texte, dans Hébreux chapitre 7, dans les versets 26 à 28. L'intercession de Christ est une intercession juste et sainte. Cela veut dire Dieu est saint, Dieu est juste. Donc, pour que cette intercession soit acceptée devant Dieu, il fallait aussi que l'intercesseur lui-même soit juste et saint. Et c'est ce que nous avons ici dans ces versets 26 à 28. Jésus est mieux qualifié pour être un souverain sacrificateur que n'importe quel sacrificateur selon l'ordre d'Aaron ou bien de l'ordre de la loi de Moïse. C'est pourquoi l'auteur dit ici, verset 26, « Il nous convenait. » Une intercession juste et sainte est convenable aux pécheurs que Christ représente. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette justice, nous n'avons pas cette sainteté en nous-mêmes. Les sacrificateurs sous la loi de Moïse n'avaient pas le caractère personnel du Fils de Dieu. Ils n'étaient pas saints, ils devaient se laver, ils devaient porter des habits qui représentaient la sainteté de Dieu, mais ils n'étaient pas eux-mêmes saints. C'est pourquoi c'était nécessaire, comme nous avons lu dans le verset 27, qu'ils offrent d'abord des sacrifices pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, mais pour Christ, étant saint, et son intercession juste et sainte, ce n'était pas nécessaire qu'il offre d'abord un sacrifice pour lui-même. Il était saint. Et les autres mots qui sont utilisés là, innocent, c'est ce qui était nécessaire de l'agneau. Ça devait être sans tache, innocent, sans ruse ni tromperie, sans souillure, lorsque c'est écrit dans sans tache, et séparé des pécheurs, dans le sens de ne pas partager leur péché. Lorsque c'est écrit que Christ est devenu péché pour nous, ou bien il a été fait péché pour nous, cela ne signifie pas qu'il a été fait pécheur. Non? Mais toute la charge du péché était placée sur lui. Mais restant lui-même séparé des pécheurs. Et puis, comme c'est écrit, plus élevé que les cieux. Nous devons nous glorifier de ces passages qui exaltent le Seigneur Jésus-Christ et le démontrent comme supérieur. La supériorité de notre Seigneur Jésus-Christ est un sujet qui n'intéressera pas tout le monde parce que les gens croient qu'ils ont en eux-mêmes une certaine bonté ou justice, mais ils sont aveugles. Pour beaucoup de personnes, ils lisent cela simplement comme quelque chose pour les encourager dans leur propre marche personnelle. Pourtant, ceux qui sont appelés de Dieu, élus, et pour qui Christ est mort, lorsque nous lisons, il nous convenait, en tant que pécheurs, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur. Il nous faut un tel souverain, souverain sacrificateur, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et en lui est notre salut. Et combien son intercession est juste et sainte, cela veut dire acceptée par Dieu, Dieu l'a élevé. C'est ça la signification de la phrase à la fin du verset 26. Est plus élevé que les cieux. Deux faits prouvent le caractère parfait de Jésus. Premièrement, son exaltation au ciel. Si Dieu n'avait pas accepté son sacrifice, donc il n'aurait jamais monté au ciel, ni ressuscité. Donc, voilà le premier point. S'il est devenu plus haut que les cieux, cela prouve, son exaltation au ciel prouve que son intercession est juste et sainte, acceptée de Dieu. Mais deuxièmement, qu'il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ce que les autres sacrificateurs devaient faire quotidiennement. Donc, une fois qu'il a offert son offrande, s'offrant lui-même, comme c'est écrit dans le verset 26, c'est fini. Il ne restait plus rien que pour Dieu de le recevoir auprès de lui au ciel, où maintenant il est assis jusqu'à ce qu'il revienne à la fin des temps. Quand il s'est offert lui-même, ça c'est totalement unique. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament apportaient un sacrifice pour l'offrir sur l'autel. Mais Jésus était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Alors, le dernier verset, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Bien sûr, Christ a connu la faiblesse dans la chair. Il a été, comme nous avons déjà lu depuis le chapitre 2, tenté en toutes choses. Hébreux 2, le verset 18. Ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, mais sans péché. C'est ainsi qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Oh, quel sacrificateur, quelle intercession pour les pécheurs. Le Seigneur Jésus étant le Fils de Dieu, une fois qu'il a accompli son œuvre, il a été rendu parfait pour toujours. Cela ne veut pas dire qu'il avait des imperfections pour lesquelles il devait être alors rendu parfait, mais toute son œuvre a établi cette perfection nécessaire. Et c'est pour cela que Dieu, maintenant, à cause de l'intercession parfaite de son Fils, peut déclarer pour toujours parfait ceux pour qui Christ a intercédé. Ça, c'est l'Évangile. Et c'est le message que nous avons le privilège d'annoncer à un monde perdu, sachant que Dieu lui-même, par son Esprit, attirera en son temps, à Christ, tous ceux pour qui Christ a donné sa vie et qui vit toujours pour intercéder en leur faveur. Alors que son nom soit béni. Amen.